Bonjour, ici Marie-Hélène de Rouen, une pharmacienne nantie bénéficiant d'une situation de rente, donc une capitaliste bourgeoise immonde. Mais je suis drôlement contente d'avoir écouté votre émission aujourd'hui parce que j'ai trouvé François Ruffin vraiment très bien. J'apprécie beaucoup son discours. Mais purée, pourquoi on ne nous dit pas ça plus souvent? J'avais l'impression d'être un vieux crouton, un vieux diplodocus qui n'est pas d'accord avec le discours ambiant. Quand j'ai écouté Attali hier, ça m'a donné la nausée. Merci beaucoup de faire entendre un son différent. Merci.
Bonjour, je voudrais vous remercier, Daniel Mermet, pour cette émission d'aujourd'hui avec François Ruffin. Je suis un peu moins bête qu'hier. Merci.
Salut Daniel, je suis en train d'écouter ton émission aujourd'hui et je comprends pas vraiment ce fantasme du CAC 40. Je comprends même pas du tout. Si les profits sont de 100 milliards d'euros, vous êtes choqué, mais s'ils avaient été de 0 milliard d'euros, qu'est-ce qu'auraient eu les pauvres de plus? Strictement rien. Donc la répartition n'est pas là. Et je dirais même plus en fait, ce que vous oubliez de dire, c'est que les profits sont taxés. Et oui, y compris les profits des compagnies et y compris les profits des actionnaires. Ça veut dire que plus il y a de profits, en l'occurrence 100 milliards, taxé à 27, ça fait 27 milliards, mieux c'est. Hein? Parce que si tu avais zéro, ça rendrait pas les pauvres plus riches, tu es bien d'accord avec moi, et en plus tu n'auras même pas l'impôt. Donc toute cette argutie que vous développez part à partir de faits qui sont totalement faux. Voilà, vous délirez, c'est du fantasme.
Bonjour, je suis une auditrice de Villeneuve-Saint-Georges. Je viens d'écouter l'émission de Monsieur Ruffin, dans laquelle il a annoncé que personne n'avait traité de son sujet. Or, c'est faux. Olivier Besancenot, la dernière fois qu'il est venu à Canal+, dans l'émission de Michel Denisot, a expliqué ce que vient d'expliquer Monsieur Ruffin, et il s'est vertement frité avec Jean-Michel Apathy, le grand journaliste que tout le monde connaît. Alors voilà, une petite rectification. Au revoir et merci pour les émissions.
Oui, bonjour à tous, c'est Jean-Gilles de Niort. Je voulais féliciter l'excellent professeur Ruffin de son excellente émission concernant le glissement de 10 points du PIB des revenus en direction du capital, soit à peu près 180 millions d'euros qui disparaissent chaque année. Et j'invite tous les AMG qui n'ont pas pu écouter l'émission à soit télécharger et diffuser cette émission autour d'eux comme moi je vais le faire sans plus tarder. À bientôt, continue le combat et merci encore.
Salut Daniel et toute l'équipe. Quand je vous disais que François Ruffin était un journaliste exceptionnel, chiffres à la pluie, il nous ressuscite une lutte des classes qu'on nous disait morte et enterrée depuis longtemps. La mamie écolo de Montpellier.
Oui, bonjour à tous. Qui peut croire aujourd'hui qu'un jeune homme de 31 ans peut miser 50 milliards et en perdre 5 comme ça, sans aucun contrôle, sans rien? Là, je pense vraiment on nous prend pour des imbéciles. Comme par hasard, cette nouvelle arrive au moment où ils avouent, la générale avoue une perte de 2 milliards d'euros dans la crise des subprimes américaines. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. En tout cas, le coup de pouce de la Société Générale, là, on l'a profondément dans le cul. Hein. Allez, bonjour à tous.
Alors évidemment, c'est exprimé dans un langage, évidemment, un peu, voilà. Mais ça risque bien d'être ça. Ça risque bien d'être ce que cet auditeur vient de dire dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. En tout cas, ça correspond assez bien à ce que nous a dit hier Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, vous vous souvenez, il vient de temps en temps nous rendre une petite visite à là-bas, si j'y suis. Il est chercheur, il est économiste, il est directeur de recherche au CNRS. Il n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Et hier après-midi, il nous a rendu une petite visite pour nous parler un petit peu de tout ça, son sentiment sur ce qui se passe à la Société Générale, sur les cracks boursiers, sur ses dérives boursières, enfin, toutes ces choses auxquelles nous ne comprenons jamais rien. Ah, quoique, vous avez vu, hier, on a quand même compris un peu quelque chose grâce au professeur Ruffin, un enthousiasme unanime dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, enfin, avec quelques bémols, heureusement, pour notre François Ruffin. Vous avez adoré son cours d'économie politique. Alors aujourd'hui, vous avez aimé François Ruffin, et bien vous allez adorer Frédéric Lordon, qu'on retrouve dans un instant. Auparavant, quand même, un petit bouquet de messages en plus. Aujourd'hui, au 01 56 40 37 37, c'est vendredi.
Oui, salut les copains. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette affaire de scandale à la Société Générale, on n'y comprend rien. Et puis, on nous parle d'un mec qui ferait des actions illégales, je sais pas quoi, mais enfin, et puis on nous dit qu'il se serait pas enrichi. Enfin bref, ça pue tout ça, on comprend pas, on veut pas nous expliquer vraiment, mais moi, je trouve étrange qu'on ne reparle pas, comme par hasard, à ce moment-là, de l'affaire Clearstream. Les banques font de l'argent sur l'argent. Et il y a un moment où ça craque, alors on accuse un lampiste, voilà, bon, ça me paraît clair, mais personne ne le dit et personne n'ose remettre en cause ce système bancaire qui tourne en rond sur lui-même. Ça commence à bien faire. Salut les amis.
Oui, bonjour Daniel et toute son équipe. Moi j'appelle au sujet de l'affaire de la Société Générale. Et franchement, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Hein. Parce qu'on nous dit que ce monsieur-là, ce salarié est responsable de cette fraude de 4 milliards. Mais franchement, mais on prend les gens pour des imbéciles, des cons. Hein. Mais les gens, les Français ne sont pas dupes. Tout ça, la responsabilité, on sait qu'elle vient de toute cette mafia internationale qui nous pique notre pognon. Hein, et nous, c'est nous qui allons payer. Alors j'espère qu'on va se réveiller et qu'on va les virer. Allez, à bientôt Daniel. Et au revoir.
Bonjour, vous écoutez France Inter, il est 7h15, c'est l'heure de retrouver la chronique de Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Alors, 5 milliards, rendez-vous compte, 5 milliards de pertes pour la Société Générale. Alors, qui sont les responsables? Eh bien, c'est tout simplement l'État-providence. Rendez-vous compte, on aurait privatisé la sécurité sociale et les retraites par répartition. Cela aurait donné une fantastique bouffée d'oxygène au marché financier et évité par là même, eh bien, les pertes de la Société Générale et pour les actionnaires. Oui, décidément, je crois que c'est une fois de plus hein, la preuve que l'État-providence n'a plus son rôle aujourd'hui. Merci Jean-Marc Sylvestre.
Qu'est-ce que j'apprends? Je suis trop contente. La Société Générale qui perd 5 milliards d'euros. Ah, ça fait plaisir d'entendre des nouvelles comme ça. Surtout quand on a été en interdit bancaire par ces charmants jeunes gens qui nous font bien galérer, quoi. Ah, c'est super nouvelle du jour. Et en plus, je suis la maman d'une petite Mirjana qui se porte à merveille. Ah, ben vraiment, il y a rien à dire, quoi. On va enfin commencer à faire un pas de côté et à jeter sa clé par terre. C'est cool. Ben, bonne journée à tous et puis vraiment trop belle la vie quoi. Ciao.
Alors le fameux trader de 31 ans accusé d'avoir fait perdre à lui seul 4,9 milliards d'euros à la banque, imaginait-il un jour qu'il rendrait aussi heureuse une auditrice de Là-bas si j'y suis? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on va en savoir un petit peu plus, espère-t-on, avec notre chercheur Frédéric Lordon, je rappelle, directeur de recherche au CNRS, auteur de Fonds de pension piège à con en juin 2000 et La vertu sauvera le monde en 2003. Et ainsi de suite, toute une série de bouquins. Oui, c'est ça, Fonds de pension piège à con qui avait laissé quand même un certain souvenir dans les esprits à l'époque. Et qui a ceci de particulier, Frédéric Lordon, c'est d'essayer de décrypter ce langage. La première chose avec le monde de la finance est évidemment un langage qui rend les choses opaques et inaccessibles au commun des mortels dont nous sommes, vous et moi. Alors Frédéric Lordon, nous l'espérons, va éclairer notre lanterne. Il y a un auditeur qui disait, c'est bien François Ruffin, il a déterré ma lanterne. C'est rigolo. Maintenant qu'elle est déterrée, il s'agit de l'éclairer, les gars. Voilà. Auparavant, encore un petit bouquet de messages. Laissez dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, dont un message de monsieur Bourret.
Oui, bonjour Daniel Mermet, ici Jean-Claude Bourré. J'ai eu une fameuse surprise hier soir en regardant la télévision, l'émission sur mai 68 sur France 3, pour faire la démonstration qu'à l'époque de l'ORTF, il n'y avait pas de liberté d'expression. On a diffusé un reportage sur les barricades qui était siglé Europe numéro 1. Or, ce reportage, c'est moi qui l'ai réalisé, et c'était sur France Inter. Alors, bien évidemment, la télévision, à l'époque, qui était une chaîne unique, était sous la main du pouvoir, mais France Inter était énormément plus libre, ne serait-ce que parce que cette radio était en concurrence avec Europe 1 et RTL. C'était notre petite minute du révisionnisme de l'histoire.
Bonjour, Daniel et François. Daniel et François, vous faites un fameux couple, c'est bien. Mais je téléphone pour dire que François Ruffin, là, il se trompe sur quelque chose. C'est très intéressant, tout ce que vous dites, bien sûr. Et le hold-up, c'est quelque chose d'organisé, n'est-ce pas? Et depuis très longtemps, après 68, ils se sont dit, oulala, les enfants, des gens qui gagnent, de quoi bien vivre, ils sont dangereux, ils remettent les fondements de notre société en cause. Ça mène à un changement de conscience. Il faut les inquiéter, il faut les foutre au chômage. Bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a compris ça. Mais là où François, il s'est trompé, c'est quand il raconte que Ségolène Royal n'a jamais parlé de ça. Elle n'a fait que ça dans tous ses meetings et dans toutes les émissions, et même dans son programme écrit que j'ai. Elle dit, entre autres, que si elle vient au pouvoir, il y aura une loi qui fait que, comme elle fait dans sa région en Poitou-Charentes, il y aura suppression des aides aux entreprises qui délocalisent ou qui font des licenciements financiers. Qu'il faut taxer plus le capital que le travail, qu'il faut redistribuer la richesse autrement, continuellement. Et elle répétait sans arrêt, je suis une femme libre, je ne suis la proie d'aucun lobby, d'aucun groupe financier. Et voilà pourquoi tout le monde, y compris la gauche, pas seulement la droite, la gauche trotskanienne, on va dire, l'a attaquée et a tout fait pour qu'elle perde. Voilà, c'est tout.
Bonjour à tous, c'est Max de l'Isère. Je voudrais revenir sur une information qui dit que Sarkozy a dépensé 30 000 euros de maquillage pendant sa campagne. Alors j'ai fait un rapide calcul. Si on considère qu'une maquilleuse qui est artisan demande 40 euros de l'heure, et si on divise 30 000 euros par 40, ça nous donne 750 heures passées sur un fauteuil. Alors je vais vous livrer un vrai scoop. J'avais l'intention de me présenter aux prochaines élections présidentielles, mais si je dois rester assis pendant 750 heures sur un fauteuil de maquillage, alors je déclare forfait. C'est trop dur. Je m'en excuse auprès de tous mes futurs électeurs. On vit vraiment une époque formidable. Merci à vous.
Bonsoir, j'ai un petit renseignement généreux à caractère littéraire pour les auditeurs de là-bas, si j'y suis, à propos de cette fameuse politique de civilisation, j'ai trouvé ce mot de Vauvenargues, l'un de nos grands moralistes du XVIIIe siècle. Et Vauvenargues disait ceci, « Les sots usent des gens d'esprit, comme les petits hommes portent de grands talons. » Voilà. Vauvenargues a tout compris de la relation entre Edgar Morin et Nicolas Sarkozy. C'était Philippe de Caen.
Ouais, bonjour, merci Daniel Mermet, merci François Ruffin. Ben, ça fait du bien d'entendre des trucs comme ça, moi je le dis. Hein, ça remonte le moral, ça redonne espoir et ça arrête de nous faire culpabiliser un peu, quoi. Enfin bon, voilà, bon, en espérant une espèce de grand soir, un de ces quatre, quoi. Mais non, merci les gars, et puis bon, voilà. Ah, ciao, c'était Manu, routier, ciao. Et comme dirait l'autre, travaillez-moi pour rigoler plus, allez, plus.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Frédéric Lordon, Société Générale. On est là pour vous aider.
Flight number 2, arriving from New York.
RT. RTL Soir.
Aussi les titres de l'actualité de ce jeudi.
La Société Générale, apparemment victime de l'un de ses traders. À lui seul, il aurait fait perdre près de 5 milliards d'euros à la banque.
La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable.
C'est donc un homme seul qui aurait réussi à duper l'une des plus grandes banques européennes, la Société Générale.
Stupeur et incompréhension ce matin au pied de la tour Société Générale, au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Près de 5 milliards d'euros évanouis à cause des opérations frauduleuses d'un seul employé malhonnête au sein de ces salles de marché.
Comment ça s'est passé et on vous présentera mieux ce jeune trader. Nous irons aussi dans plusieurs agences parisiennes pour voir comment les clients réagissent.
Alors là, cher Lordon.
Oui, cher Mermet.
Là, ça, c'est du gros. Ça, c'est du lourd.
C'est du lourd.
La Société Générale, victime d'une fraude massive, et la masse de la fraude, c'est 7 milliards d'euros. La Société Générale, en ce vendredi 25 janvier 2008, a perdu, nous annonce Le Monde, le quotidien Le Monde, 7 milliards d'euros, ce qui est quand même assez considérable. Mais c'est le fait d'un seul homme. C'est un gars qui travaille à la Société Générale et qui est un bon informaticien et qui, nous dit-on, je ne fais que résumer, a réussi à détourner. Alors on ne sait pas très bien, je n'ai pas très bien compris si c'est 5 ou 7 milliards. Bon, on a compris. Ma question transpire l'incompétence. C'est pour ça, cher Lordon, que vous êtes là.
Mais, cher Mermet, non, la question qui transpire l'incompétence et qui fait faussement son candide, c'est comme toujours la question qui tue. Parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. Donc en particulier, cette histoire de 7 milliards, dont on nous dit que ça se décompose en 5 plus 2, c'est-à-dire quand même un gros bout de fraude et un petit bout de perte, et ce qui permet de tout mettre sur le dos de ce pauvre type, enfin je m'exprime par litote ou par antiphrase plutôt, qui à lui tout seul, avec ses petits bras musclés, aurait fait péter le record des toutes annales confondues, hein, du montant de la fraude financière. Puisque 5 milliards, il paraît que là vraiment c'est du jamais vu.
C'est vrai ou pas ?
Alors, évidemment, moi, je ne peux pas me défaire d'un mauvais esprit et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est en train de nous raconter un conte édifiant pour enfants en bas âge. Et je serais presque prêt à faire au micro un aveu de paranoïa et de verser dans le conspirationnisme le plus honteux, avec toutes les conséquences que je suis prêt évidemment à assumer. Et une histoire déjà beaucoup plus convaincante me semblerait être la suivante. Certes, il y a un bonhomme qui, au courant des méandres informatiques du back-office de la Société Générale, a réussi à tripatouiller quelques comptes et à monter quelques combines, et il a détourné des sous, ou plus exactement, il en a perdu un bon volume. 5 milliards, très franchement, à lui tout seul, j'en doute extrêmement fort. Le cas qui fait précédent, c'est le célèbre Nick Leeson, qui au milieu des années 90, avait mis la Barings quasiment en faillite à lui tout seul, et avait perdu des sommes qu'on jugeait pour l'époque astronomiques, mais enfin c'était tout de même 170 millions de livres. Bon, je sais bien que tout augmente, n'est-ce pas, mais entre 170 millions de livres et 5 milliards d'euros, il y a tout de même un sacré écart. Donc, à côté de notre fâcheux et de notre nuisible de la Société Générale, Nick Leeson est à peine un voleur de scooter. Bon. Donc déjà, c'est un petit peu suspect. Et mon sentiment, alors là je verse, là complètement déboutonné dans ma thèse paranoïaque, qui est la suivante. Mon sentiment, c'est que Daniel Bouton, président de la Société Générale, campe obstinément sur une position de dénégation obtuse de tout problème qu'aurait rencontré la Société Générale depuis que la crise des subprimes a éclaté, c'est-à-dire depuis l'été 2007. Ça fait 8 mois qu'il résiste à la perspective d'annoncer la moindre perte de ce compartiment des marchés financiers, et jusqu'ici, il semblait avoir tenu bon. Et voilà que le même jour, il nous annonce que certes, la Société Générale a perdu 2 milliards d'euros sur ses produits dérivés des crédits hypothécaires américains, mais que par-dessus tout, et c'est quand même ça la chose importante, elle en a perdu 5 grâce à une fraude. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'annonce simultanée des deux choses a pour vocation de faire mieux passer les 2 milliards d'euros de pertes dans le grand flot de scandales qui va accompagner les 5 milliards de fraudes. Et si vous voulez tout savoir, moi j'aurais tendance à penser que ce brave type de la Société Générale a certes perdu, mais pas tant qu'on lui en prête, et que on a dû passer avec lui une espèce de deal du genre « soit nous te brisons, soit tu vas accepter de porter un chapeau un petit peu plus grand que celui que tu as déjà sur la tête, et ainsi on va faire passer en fraude quelques autres milliards d'euros que nous avons bel et bien perdus en subprime, de sorte que, au total, l'affaire de la Société Générale sera un fait divers, un événement malheureux, la faute à un mouton noir ou à une pomme pourrie, plutôt que de mettre en cause les fonctionnements ordinaires de la finance qui l'ont conduite, elle comme beaucoup d'autres banques, à perdre sa liquette. »
Jérôme Kerviel, 31 ans, est peut-être l'homme qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Un courtier prometteur, doué en informatique, qui gagne 100 000 euros par an et travaille dans la salle des marchés.
Là, on a un coupable parfaitement identifié pour prendre la foudre.
Il est mis en examen, il est arrêté, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, la dernière fois que j'ai entendu Daniel Bouton parler du sujet, ça devait être à midi aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je m'excuse de casser l'enchantement de la radio, mais je voudrais préciser qu'on est jeudi. Jeudi combien ? On est jeudi 24. Alors, je dis ça non pas comme une manœuvre de trahison qui briserait le charme du faux direct, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini quand même de parler de cette affaire Société Générale et que le débat pourrait rebondir sur cette question de manière un petit peu torrentueuse. Donc voilà, il est possible qu'on reparle de tout ça, donc je voudrais pas avoir l'air du crétin de service qui redécouvre l'eau tiède après que tout le monde... Voilà, bon.
Alors... 5 ou 7 milliards, qui paye ces 5 ou 7 milliards? C'est les clients de la banque, c'est l'État, c'est la banque centrale, c'est...
Non, pour l'instant, c'est personne, c'est la Société Générale qui prend ça pour elle. Ça va faire des pertes ou des résultats moins gros dans ses comptes. Alors, Daniel Bouton continue de se gargariser qu'en dépit de ces événements malheureux, l'exercice 2007 dégagera un bénéfice net de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, là où il aurait dû être beaucoup plus resplendissant s'il n'y avait pas eu ces 7 milliards évaporés, bien sûr. Donc, mais pour l'instant, ce sont des pertes qui sont enregistrées dans les comptes de la Société Générale et par elle seule. Et pour l'instant encore, l'État n'a pas à intervenir parce que la Société Générale n'est pas techniquement en situation de faillite. Ce ne sont pas les clients qui sont spoliés.
Les clients ne sont pas spoliés, mais ils toucheront moins. Il y aura moins pour les actionnaires, pour les non.
Non, alors les clients, c'est une chose. Non, les clients, ils continueront, pour ceux qui ont de l'épargne rémunérée, ils continueront de toucher ce qu'ils touchaient jusqu'à présent, sauf variation ultérieure des taux d'intérêt. Mais ça, c'est décidé par la Banque Centrale, donc c'est une autre affaire. Quant aux actionnaires, alors là, c'est toujours la question. Normalement, quand le profit d'une entreprise baisse, les dividendes versés aux actionnaires baissent également. Mais comme on est dans le monde merveilleux du capitalisme actionnarial, où la puissance sociale dominante, précisément, ce sont les actionnaires, tout est fait pour leur éviter le moindre désagrément. De telle sorte que s'il y a des ajustements à faire à la suite d'un accident économique qui vient entamer les profits, on se débrouille pour que ce soit n'importe qui d'autre qu'eux qui éponge les dégâts. Alors, c'est par exemple, c'est tout à fait patent dans le cas des grandes banques américaines, et en particulier de l'une de celles qui a le plus perdu jusqu'à présent sur les marchés financiers, à savoir Citigroup. Et pendant très longtemps, alors que des pertes astronomiques étaient avérées, Citigroup a freiné des quatre fers à l'idée qu'on pourrait entamer le dividende versé aux chers actionnaires. La catastrophe prend une ampleur telle maintenant qu'il commence à se faire gentiment à cette idée. Mais c'est pour dire que vraiment, on l'envisage en tout dernier ressort.
L'événement de ce jeudi 24 janvier, c'est la Société Générale qui a été victime d'une fraude. Un de ses employés aurait détourné 5 milliards d'euros.
La Société Générale a perdu 5 milliards d'euros à cause d'un homme. Un homme seul qui les a volés. Un homme également connu pour avoir creusé le déficit commercial de la France de 40 milliards d'euros en une seule nuit. Le même homme que l'on a aperçu à Roissy lors du crash du Concorde en 2000. Un homme chez qui a été retrouvée l'arme qui a tué Kennedy et qui est responsable du recrutement au PSG depuis 7 ans. Alors oui, la Société Générale a bien été victime de cet homme et ça n'a évidemment rien à voir avec la crise des subprimes.
Et c'est aussi lui qui nous a volé la victoire au présidentiel.
Non, faut pas exagérer.
Ben, j'aurais essayé.
Take one.
pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens. Tu sais, ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, 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 l'argent.
Alors, on continue avec Frédéric Lordon. Tout ce que vous voulez savoir sur ce qui se passe à la Société Générale, la crise, la bourse, comment s'enrichir, c'est un numéro spécial de Là-bas si j'y suis. Et avec nous, Renaud Lambert, qui voulait poser une question à Frédéric Lordon.
Ah oui, parce que Frédéric Lordon, vous nous parlez de ce qui se passe en ce moment à la Société Générale, et puis du côté un petit peu fait divers de la traque à ce fraudeur qui a volé 5, 7 milliards à la Société Générale.
Mais 5, on t'a dit, on a dit 5.
On a dit 5, ouais. Bon, alors c'est 5. Et puis il y en a deux autres qui viennent d'autres problèmes. Le mot était lâché tout à l'heure, les subprimes. Mais pourquoi mettre en avant ce fait divers, et quel intérêt pour des gens comme Bouton, le PDG de la Société Générale, à mettre en avant ces pommes pourries qui finalement mettent en péril le système, un système qui peut-être par ailleurs fonctionne bien?
Mais voilà, le système est sain, et tout l'avantage de Daniel Bouton dans cette manœuvre, c'est de passer du statut de coupable à celui de victime. Et quand même, on accordera que c'est avantageux, quoi. Entre... Je suis le président d'une banque qui, par ses prises de position inappropriées, a perdu 7 milliards. Et je suis le président d'une banque qui a été injustement et tragiquement flouée par un de ses employés indélicats. On voit tout de suite la différence. Hein. Bon. Alors, il faut bien dire les choses. C'est une figure de style vieille comme le capitalisme déréglementé. C'est la faute, non pas à pas de chance, mais c'est de la faute aux malhonnêtes. Voilà. Et cette comédie récurrente, hein, je veux dire, qui fait plus rire personne, on en a déjà eu l'illustration lors de la crise qui était survenue au début des années 2000 avec l'éclatement de la bulle Internet. À l'occasion de quoi, tout le monde s'était précipité sur Enron, WorldCom et leur patron indélicat qui avait maquillé les comptes, détourné un peu d'argent pour eux, s'était fait payer des baignoires à robinetterie en or massif, etc., etc. Et évidemment, tout l'avantage de la manœuvre, c'est que pendant qu'on parle des robinets en or massif, on ne parle pas d'autre chose. Et il reste toujours la possibilité de dire, brave gens, n'ayez pas peur, le système est fondamentalement sain, certes, mais c'est la vie. Il reste quelques malhonnêtes en circulation qui n'ont pas encore été mis en cabane. Dès qu'on leur aura mis la main au collet, vous pourrez dormir à nouveau tranquille.
Alors qu'en fait, c'est tout le système qui est pourri, Frédéric. Franchement,
faut nous le dire. Je voudrais pas avoir l'air de quelqu'un d'excessif, mais j'ai bien peur que oui. La preuve en est d'ailleurs que bon nombre d'autres banques, et des plus fameuses et des plus réputées sur la place américaine, on pourrait citer Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, etc., sont en train, si vous me permettez l'expression, de manger chaud, et ceci depuis le mois de juillet 2007. Et alors celles-ci n'ont pas eu la fortune de se trouver un petit aigrefin qui aurait tripatouillé leur compte ou qui aurait passé quelques ordres un peu scabreux dans un coin de la salle des marchés. Non, je veux dire, c'est ces milliards de dollars dont les annonces sont sans cesse révisées à la hausse. Hein. Il faudrait reprendre la chronique des annonces de pertes réalisées par Merrill Lynch ou par Citigroup, et tous les mois et demi ou tous les deux mois, on a droit à une révision qui nous fait à chaque fois dégringoler plus bas les yeux des orbites. C'est absolument sidérant. Bon, j'allais dire, ces milliards de dollars ont été perdus à la régulière. C'est-à-dire en conformité avec la logique la plus pure du système financier, qui est celle qui a emporté la totalité du système dans cette espèce de délire collectif, car le délire collectif est en fait, il faut bien le dire, le mode privilégié de fonctionnement de la finance spéculative, dans ce délire collectif qui restera, très franchement, hein, dans les annales de l'histoire du capitalisme. Mais, je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la déréglementation financière nous gratifie d'épisodes qui sont chaque fois d'une magnitude plus importante, et on a l'impression que le record est battu et qu'on ne le dépassera pas, et le coup d'après, ça fait toujours plus fort.
Mais là, sauf que quand même, vous nous rassurez concernant la Société Générale. La Société Générale...
Non, je me rassure parce que j'ai mon compte à la Société Générale.
Bon, ben oui, mais vous n'êtes pas affecté.
Non, je serais... Pour l'instant, j'y ai laissé mes économies.
Donc, c'est parfait. Donc, on apprend que la Société Générale gagnera moins cette année, mais ça n'affectera pas ou pas beaucoup les clients, parmi lesquels on compte Frédéric Lordon, les clients de la Société Générale. Mais quand même, cette semaine, indépendamment de la Société Générale, on a vu, lundi c'était le crack, mardi non, mercredi ça recommence, etc. C'est up and down, ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est-à-dire, quels sont les effets? Après tout, moi j'ai un compte moi au Crédit Lyonnais. Bon, on est tous mouillés.
On finira alors, tous en liquette.
Voilà. Moi je suis inquiet pour mes petits sous, pour mes petites noisettes.
Alors, je
me dis, quels effets sur les braves gens que nous sommes, ces histoires?
Bah, c'est compliqué parce que c'est un peu comme en physique. On peut regarder un même objet à différentes échelles. Alors, on peut regarder la chose en plan très serré. En plan très serré, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces espèces de montagnes russes boursières. Un jour, ça monte, le lendemain, ça descend. Lundi, catastrophe. Les traders se pendent par leur cravate. Mardi, ils respirent et on fait péter les bouteilles de champagne, etc. Bon. Et c'est incompréhensible. On peut regarder la chose en plan un peu plus lointain. Ces épisodes de stop and go, de je déprime, j'euphorise, etc. Ça monte, ça descend. Ces épisodes s'inscrivent dans le profil caractéristique de cette crise qui dure depuis déjà 8 mois maintenant, hein, et qui procède précisément par à-coups. C'est-à-dire que la communauté financière a d'abord pris conscience que là, elle était en train de filer un mauvais coton, et les premières secousses sont arrivées. Elles ont été très violentes, elles ont eu lieu au milieu du mois d'août. Et puis, on a repris légèrement espoir. Mais ça a replongé dès le mois de septembre. Et c'est ainsi, sachant que la communauté financière d'abord aime à se rassurer elle-même, pour une raison extrêmement simple, c'est que il vaut mieux que l'euphorie se maintienne aussi longtemps que possible, ou lorsque l'euphorie a disparu, que le moral reste aussi bon que possible, parce que tant que le moral est bon, on achète, et tant qu'on achète, les prix ne baissent pas. Donc collectivement, les opérateurs de la finance ont intérêt à partager la même opinion optimiste et à communier dans la frénésie d'achat. Mais évidemment, cette raison-là n'est pas suffisante pour se donner réalité à elle-même. Donc régulièrement, il y a une espèce de goutte à goutte ininterrompue de mauvaises nouvelles qui reviennent périodiquement et qui renvoient tout le monde dans le cafard le plus noir, à l'occasion de quoi on a de nouveau un accident de marché, alors soit sur le compartiment des dérivés de crédit, soit sur le compartiment des actions, parce que, évidemment, ce qui s'est produit dans la sphère des marchés de crédit est un événement qui a une puissance d'irradiation absolument extraordinaire. Ça rayonne vraiment là, ça rayonne dans toutes les directions du capital et d'abord dans toutes les directions de la sphère financière. Donc il était logique qu'à un moment ou à un autre, les marchés d'actions fussent atteints à leur tour. Et c'est ce qui s'est produit. Et ils ont été atteints par différents truchements. Ils ont été atteints d'abord parce que, à l'origine, ce sont les banques qui ont pris les premiers chocs. Et donc les valeurs bancaires ont été massacrées en bourse. Donc les marchés d'actions étaient tirés par la déconfiture des valeurs bancaires. Bon, voilà, ça c'est facile à comprendre. Les marchés d'actions ont également souffert du fait que beaucoup d'institutions financières qui, à la suite du choc subprime, se sont retrouvées dans des situations de liquidité très tendues, ont, pour en sortir, vendu tout ce qu'elles pouvaient vendre, et en particulier ce qu'elles avaient en portefeuille de meilleure ou de moins mauvaise qualité, et notamment des actions. Donc beaucoup d'institutions financières se sont mises à vendre des actions en catastrophe pour retourner au cash, pour redevenir liquide. Ça n'a pas aidé les bourses non plus. Et puis maintenant, on a un troisième temps, ou une troisième temporalité en quelque sorte, de l'accommodation ou de la conséquence boursière de ce choc subprime, et qui est plus grave d'une certaine manière, parce que ça se généralise. Et cette conséquence, elle vient du fait que, là aussi, après avoir résisté pendant un bon trimestre à l'idée qu'une récession allait s'en suivre de ce choc financier. Après avoir résisté pendant un bon trimestre, les gens commencent à s'y faire doucement. Douloureusement, mais doucement. Et désormais, l'opinion majoritaire dans ces marchés sait que la récession aura bien lieu. Et il faudrait même qu'elle soit sévère, se disent-ils. Alors si la récession est là, évidemment l'activité des entreprises va emporter la marque. Les entreprises auront moins d'activité, donc elles auront moins de profits. Donc voilà une bonne raison pour que les actions baissent dans 6 mois, moyennant quoi on les vend dès aujourd'hui. Mais là, on voit bien que c'est plus seulement les valeurs bancaires qui sont marquées. C'est la totalité de la bourse qui déguste.
Des années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Des puces électroniques surveillaient sans mal les murailles de lingots tressées dans la cale. Poussé par le vent des marchés, la coque passait entre des récifs de chiffres carrés. Jamais l'opulence n'expirait, une signature au dos de la carte suffisait à pousser le navire loin des rades. Ils avaient le code secret et la parade, là où ils mouillaient, dans des golfes sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage hilar faisait gicler la monnaie. Sur une mer d'huile bien vernie, mieux valait entretenir de bons amis. Lâcher des pourliches aux institutions financières, s'entendre avec une poignée de corsaires. Les navires s'offraient de royales escales, où les hôtesses psalmodiaient le nom des capitales. Et le navire cinglait vers de plus riches océans, où les vents soufflent à crédits illimités. Déchiquetèrent les voiles, une tempête se levait sur les places occidentales. L'équipage à découvert sous l'ouragan voyait refluer toutes les vagues de paiement. La carte bleue se fissurait à l'horizon, dans les cales les puces piquaient comme des scorpions. Des condors désargentés hurlaient dans le ciel, une peur bleue leur serrait la rondelle. Les membres d'équipage écopaient le liquide, le cache, la cagnotte.
Cher Lordon.
Oui, cher Mermet.
Oui, c'est dans l'imagination de quelqu'un comme moi, qui suis un Français un peu archaïque, un actionnaire, c'est un type avec un chapeau 8 reflets, une chaîne de montre en or, et qui est assis avec des pommettes rouges et qui sort d'un grand restaurant. Or, un actionnaire, ça peut être aussi un salarié. C'est-à-dire que quand ça morfle, quand ça plonge, le salarié actionnaire morfle et plonge lui aussi.
C'est un archaïsme qui n'est pas si mal fondé que ça. Alors je vais prendre la question un peu à revers. En repartant de cette idée qu'il y a vraiment de quoi faire sortir de ses gonds, que lorsque la finance pète le feu, elle garde les gains pour elle, mais lorsque c'est la déconfiture, elle y associe tout le restant de l'économie et de la société. Et alors, dans cette affaire, on cherche quand même de quoi échapper à ces affects de colère, parce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé. Et alors, on se dit, mais finalement, dans cette affaire, bien sûr, toute l'économie va morfler, mais quand même, les institutions financières, elles sont en première ligne. Et on ne les aime pas particulièrement. Elles vont faire des pertes, et leurs actionnaires peut-être avec. Et ça n'est pas de nature à nous attrister. Bon. Et puis, quand on y réfléchit à deux fois, effectivement, on se dit, mais attention, les institutions financières, avec quoi elles jouent sur les marchés et accessoirement avec quoi elles perdent? Réponse, avec du crédit bancaire, souvent, mais aussi énormément, avec de l'épargne. De l'épargne de qui? De l'épargne des salariés. Ah mais ça, c'est nous les salariés. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Alors, à ce stade, il va falloir faire des différences, parce que toutes les économies ne sont pas logées à la même enseigne. La financiarisation du salariat n'a pas atteint la même extension dans les économies, on va dire, anglo-saxonnes, américaines et britanniques essentiellement, ou dans une...
Qui sont nos modèles.
C'est normal, elles sont modernes. Et dans des économies, disons, paysanne rurale et archaïque, comme les nôtres. Voilà. Alors, ça a un avantage, ceci, d'une certaine manière, l'archaïsme, c'est que les salariés qui sont véritablement mouillés dans l'épargne financière, c'est-à-dire ceux qui ont de quoi placer des sommes sur les marchés financiers, sont des salariés très privilégiés, ou privilégiés, tout court. Mais ce n'est pas le bas du salariat. Parce que le bas du salariat, dans le meilleur des cas, il a un livret A. Au mieux, il y ajoute un code EVI et après, ça s'arrête là. Donc, pour commencer à jouer sur les marchés, il faut être un salarié de la haute. Donc, il est vrai que, de ce point de vue, la structure même du salariat français et plutôt de son implication relativement modérée, pour l'heure, dans la financiarisation, a des propriétés en quelque sorte de justice sociale, si on peut dire. C'est de la justice sociale par la déveine, mais tout de même, on se dit que bah voilà, Bernard Arnault, il a 10 milliards, il y en a beaucoup qui sont en bourse, s'il en perd 10%, je veux dire, on va retenir nos larmes. Hein. Il lui en reste 9, ça laisse de quoi s'acheter encore une caravane pour partir en vacances à Boulouris, donc je l'ai, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. La situation dans les économies américaines ou britanniques sont extrêmement différentes. Parce que là, tous les salariés sont le grand bain de la finance, et ce, par le truchement d'un piège qui est absolument mortel, qui est la financiarisation de l'épargne retraite. Tous les salariés sont intéressés à avoir une retraite, et pour avoir une retraite, si l'on met de côté des systèmes de répartition, des systèmes publics qui sont absolument misérables dans ces économies-là, on ne leur a pas laissé d'autre choix que de cotiser à des fonds de pension. Et les fonds de pension, ça joue sur les marchés. Et quand les marchés se retournent, les fonds de pension, ça perd.
Et donc, quand ça perd, on n'a plus de retraite.
Et c'est leur épargne retraite qui est en train de partir en fumée. Alors, pour ceux qui la prendront dans 10 ou 15 ans, ça leur laisse l'espoir d'attendre que, après la pluie et le beau temps. Mais pour ceux qui doivent liquider leur patrimoine retraite dans les 6 mois qui viennent, très franchement, il va falloir envisager de travailler plus que les 35 heures et que les 40 ans. Quoi.
Renaud a une question à poser à Frédéric Lordon. Attention.
Frédéric Lordon, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce phénomène assez curieux qui est qu'après avoir réclamé puis obtenu l'indépendance totale de ces banques centrales, de ces joujoux que sont les banques centrales, aujourd'hui on entend des voix se lever du côté de la finance pour exiger, pour enjoindre ces banques centrales qu'elles prennent les mesures évidentes et nécessaires pour un petit peu colmater le bazar qui part en vrille.
C'est en fait, je le peux. Je crois que je le peux.
Il peut le faire.
Il peut le faire. Le Sarabindranath Duval peut le faire. Mais c'est que les dominants du capitalisme ont l'idéologie très teintée de pragmatisme. C'est-à-dire, je veux dire qu'ils ont l'idéologie à géométrie variable. La doctrine vaut pour certains, dans toute sa rigueur, mais pour d'autres, il y a lieu d'être un peu plus accommodant. Moyennant quoi, l'indépendance de la banque centrale, c'est bon pour ces gueux de salariés. Parce qu'au moins, la banque centrale veillera. Et si jamais ceux-ci ont le mauvais goût de demander des augmentations de salaire qui dépassent l'entendement, des trucs du genre 2% ou 3%, les goinfres, la banque centrale interviendra et serrera la vis avec ses taux d'intérêt. En revanche, lorsque c'est la finance qui est à la peine, la banque centrale se montre tout de suite beaucoup plus coulante. Alors, je m'en voudrais de tomber dans une théorie un peu sommaire qui présenterait la banque centrale comme le factotum ou le préposé du capital financier. Parce que la chose n'est pas tout à fait exacte. C'est pas que ces gens-là se détestent foncièrement. La plupart du temps, ils sont issus du même monde, les élites circulent d'une sphère à l'autre, et ils se retrouvent autour des mêmes cocktails et sur les mêmes terrains de golf. Mais pour autant, la banque centrale a sa logique institutionnelle propre. Et dans sa logique institutionnelle à elle, il y a un truc qui lui déplaît très fort. C'est de se retrouver systématiquement pris en otage par les investisseurs institutionnels, qui l'appellent au secours dès que ça va mal. Et la banque centrale de céder, non pas tant parce qu'elle serait le petit doigt sur la couture du pantalon au service des 10 investisseurs ou des puissances du capital financier, mais parce que la banque centrale a fonctionnellement la responsabilité de la stabilité et de la pérennité du système financier dans son entier que peut menacer un accident de marché ou un accident bancaire quand il prend des proportions un peu trop importantes. Et qu'il y ait un rapport de force parfois entre le banquier central et les opérateurs de la finance, ça se voit en plusieurs occasions et ça s'est vu en particulier au début de cet été où le nouveau banquier central, là, le bleu, Bernanke, qui venait d'arriver à la suite de Greenspan, dont tout le monde s'accorde à reconnaître avec un peu de recul que maintenant il avait fait preuve d'une largesse coupable tout de même avec ses amis investisseurs institutionnels, Bernanke voulait rompre avec cette pratique-là. Et il a tenté de résister aux demandes hystériques des investisseurs institutionnels de baisser immédiatement les taux d'intérêt dès que les premiers signes de secousse se sont fait sentir sur les marchés. Le malheureux n'a pas tenu 15 jours. Parce que les contraintes objectives de la situation de risque systémique s'imposaient à lui. Et il lui a fallu mettre les pouces.
Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand plongeon des bourses partout dans le monde.
Une dégringolade mondiale. De l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Europe, toutes les places boursières ont connu un lundi noir.
Les bourses ont connu un lundi noir.
La crise est bien là. Pour Nicolas Sarkozy, cette crise est avant tout financière, mais la France serait moins touchée.
C'est aujourd'hui à 11h30 que Jacques Attali remet son rapport pour libérer la croissance.
Il contient 314 propositions, dont 20 mesures jugées fondamentales. Jacques Attali a prévenu, si on veut relancer la France d'ici 2012, il faudra adopter toutes ces mesures. Jacques Attali a prévenu.
Ah, mais c'est bien ça, effectivement. On a parlé de la Société Générale, on est vraiment dans l'actualité. Oui. La Société Générale, la crise financière, boursière, et évidemment la Commission Attali.
Oui, la Commission Attali. Oui,
Attila.
Oui. Oui, la Commission Attila. Oui, ça c'est vrai qu'après lui, rien ne repoussera. Ce qui ne va pas repousser en particulier, j'ai l'impression, c'est l'intellect de nos chères têtes blondes qui aura été dévasté dès le plus jeune âge. Moi, je n'ai pas lu la totalité du rapport, je ne connais pas toutes les mesures, mais alors celle-là, je dois dire qu'elle a fait particulièrement tilt.
C'est quoi ?
On va enseigner l'économie aux enfants dès l'école primaire. Pourquoi ? Parce que la France, qui est d'un archaïsme paysan dont tu es la personnification même, et moi avec, la France n'accorde pas la considération qu'elle mérite au désir de la richesse. La France est fâchée avec la richesse.
Oh.
Ah ben c'est Attali qui l'a dit. Donc. La richesse fait scandale. Alors qu'a-t-il dit, dans les pays anglo-saxons, c'est bien connu, c'est la pauvreté qui fait scandale. On ne doit pas vivre sur la même planète, quoi. Donc il faut apprendre, et ceci dès le plus jeune âge, aux enfants de France à révérer comme il convient les valeurs de la richesse. Et alors ça va paraître un détour bizarre, mais il se trouve que j'ai le privilège d'avoir le câble à la maison. Et dans le câble à la maison, j'ai CNBC, qui est chaîne boursière américaine. Et CNBC, franchement, c'est un spectacle qui fait ma joie. Alors maintenant, je suis devenu accro, il m'en fout ma dose tous les jours. Si je ne l'ai pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc.
C'est à Bernanke de faire quelque chose. Il faut qu'il se bouge le cul. Ça donne une idée du bordel dans lequel on est. Mais Bernanke fait son universitaire à la noix. Mais putain, mais qu'il écoute deux secondes. Il n'a aucune idée du bordel dans lequel on est. Aucune. Aucune merde. Moi j'ai parlé au patron de quasiment toutes ces boîtes et je peux te dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se prépare. Aucune. Les gens avec lesquels je bosse, ça fait 25 ans qu'ils font. Et ils vont perdre leur boulot et ils vont perdre leur boîte. Il est fou quoi, merde. Ils sont nuls, nuls à chier. Et la Fed qui se bouge pas le cul, putain.
Ok, du calme. Je sais que c'est un sujet sensible qui vous tient à cœur, mais beaucoup de gens disent qu'il y a un certain type de prêt, d'accord, qu'on ne peut plus faire.
Personne ne peut obtenir un prêt aujourd'hui s'ils ne sont pas aussi riches que moi. Qu'ils baissent les taux, c'est tout.
Mais Kramer, si la semaine prochaine on baisse les taux, ce sera la fin du monde.
No, we have Armageddon.
Mais on est déjà à la fin du monde.
We have Armageddon.
On est déjà à la fin du monde.
C'est une chaîne d'une vulgarité insurpassable. Mais je veux dire, même le plus trash de la télé-réalité est en dessous de ça. Alors, évidemment, ça ne bézouille pas dans la piscine. On a des gens qui sont, j'allais dire, bien mis. Mais bon, ça porterait à interprétation. Ils sont bien habillés, je voulais dire. Ils sont en chemise blanche et cravate bien nouée, etc. Mais ils sont d'une vulgarité, mais c'est quelque chose de colossal. Et sur cette chaîne, les valeurs de l'enrichissement sont reines. Les pulsions de la cupidité se laissent avoir dans toute leur déclinaison et dans un registre, mais quasi métaphysique et existentiel. Le fric, c'est chic, le fric, c'est bien, en avoir, c'est réussir sa vie, ne pas en avoir, c'est être un raté, etc., etc. Eh bien, je me dis que cette chaîne, dont je crois profondément qu'elle est encore improbable en France, je crois que cette chaîne finira par y trouver sa place. Et ceci moyennant les efforts conjugués de la commission Attali et de la politique de civilisation de notre cher président Sarkozy. Parce que cette politique de civilisation, on en a fait une bouffonnerie. Tout le monde s'est marré en disant, mais vraiment, c'est une outre pleine de vent, etc. Personnellement, moi, je la prends plutôt au sérieux et elle me fait un peu peur. Parce que la politique de civilisation, c'est-à-dire la réforme des entendements et l'acclimatation des nouvelles valeurs, c'est bien ça qu'entreprend la commission Attali en saisissant les esprits quand ils sont malléables, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans, pour faire rentrer dans le crâne des enfants que gagner du pognon quand même, ça c'est un vrai but et une vraie philosophie dans la vie. Eh bien, c'est cette philosophie-là qui triomphe sur CNBC. Pour ceux qui ont la chance de la voir et de saisir l'anglais bouillabaisse qu'on y entend, ça vaut le coup d'y aller voir parce que c'est une préfiguration de l'action civilisationnelle qu'on nous promet et très franchement, elle n'est pas belle à voir.
Oui, mais Frédéric Lordeaux, auparavant, on s'était aperçu, et ça n'a pas échappé aux chercheurs en économie que vous êtes, on s'était aperçu que dans les manuels d'économie destinés aux étudiants, il y avait un fond marxiste. On exposait l'économie, on expliquait les choses de la façon la plus marxiste qui soit. Il y a eu toute une campagne, on s'est aperçu qu'il fallait en finir avec ça. Donc je pense que l'enseignement que nos jeunes enfants vont recevoir va être débarrassé de cette vision des choses.
Nous pouvons l'espérer, Daniel Mermet.
Décalé-catane, oh et oh et. 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 Au bal masqué, oh et oh et. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh et oh et, de danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, oh et oh et. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh et, de danser. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. Superman, Spider-Man. On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Colombine. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis.
Devinez qui chante, en tout cas, c'était Renaud Lambert et Pascal Pascariello, le duo infernal qui traduisait la chaîne CNBC, qui est fantastique, effectivement. Pas très loin de RMC, un peu l'esprit des grandes gueules de RMC. Merci à Frédéric Lordon. Il publie auprès de Sciences Po Conflit et pouvoir dans les institutions du capitalisme et puis à venir un bouquin sur Spinoza et les sciences sociales. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez pendant 24 heures réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez également réécouter l'émission avec François Ruffin et la bande dessinée 9-3, le hold-up géant dont vous pouvez vous régaler sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, Yann Chouka et Koyen Guyenne ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry et Christophe Humbert. Passe tout son week-end jusqu'à lundi près du répondeur de la base si j'y suis, dans l'attente de vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.